Le dimanche soir, France Culture vous invite à vivre l'expérience. Un espace sans charte ni format, où l'imaginaire peut s'envoler. Aurélie Charron.
L'expérience commence. C'est l'histoire d'une solitude, de ce qu'on attend d'une île, du vent qu'on tente de dompter, et de la réalité qui vient cogner le désir de liberté. C'est un homme qui mesurait presque 2 mètres. Il y a eu la tempête, 4 incendies et une disparition, un suicide. L'homme s'est donné la mort face à la mer, écouteurs sur les oreilles. Octave Brotard est parti sur l'île d'Ouessa en Bretagne pour recomposer l'histoire, tenter d'avancer dans l'énigme. Sur l'île, il y a quelques centaines d'habitants, des souvenirs et des rumeurs. Ouessa, le vent et son sang, une enquête sonore et intime d'Octave Brotard et Céline Terce, à écouter si vous le pouvez au casque pour s'immerger encore plus dans les éléments.
Adossé à un rocher avec des écouteurs sur les oreilles, il s'est coupé les veines et probablement poignardé. Il y avait une vraie chasse à l'homme, je crois qu'il y avait une 40aine de gendarmes, il y avait un hélicoptère. Des tireurs qui pouvaient intervenir. L'esprit de l'île a été touché. Hein. Lui, il a tué Ouessa, quoi.
Oui, on sentait de l'autre côté de l'île la fumée, on voyait de la fumée, on se demandait ce qui se passait d'ailleurs. Puis je l'ai su quelques heures plus tard quand j'ai vu que la police débarquait et tout ça, enfin bon bref, que c'était un incendiaire. Il avait la réputation quand même d'être assez violent, hein. Moi j'ai un ami qui a été un peu violenté par lui, une fois, parce qu'il était assez agressif. Hein, quelle connerie d'avoir fait ça aussi. Pourquoi ?
Un incendie, 2 incendies, ça arrive jamais sur une île. Mais bon, faire face à 4 incendies en quelques heures, c'était impossible. Et les gens, évidemment, ne parlaient que de ça. Et puis tout le monde voulait savoir pourquoi, mais qu'est-ce qui lui a pris. C'est évident, enfin tout le monde voulait savoir le pourquoi. J'ai juste envie de savoir qui était vraiment Pascal Gosselin. J'ai jamais vu son visage, je sais pas à quoi il ressemble. C'est une ombre qui plane sur l'île.
Ouessa, le vent et son sang.
Thank you. posé en sud dans le zodiac. Il revient au zodiac.
On voit des têtes, effectivement. Ouessant, c'est la pointe. C'est la pointe du Finistère, c'est la pointe du continent.
Hervé Chambonnière, journaliste au Télégramme.
C'est le bout de la terre.
Paul Jézéquiel, habitant d'Ouessant.
C'était une belle journée, je crois. Si je m'en souviens bien, oui. Oui, oui, il me semble. Oui. Il devait avoir un peu de vent parce que ça a bien aidé à brûler. Hein. Plus rien ne marchait, mon téléphone qui marchait plus, je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on était tous en pétard contre cette andouille, ça c'est sûr. Et bon, bien avant de savoir qu'il était mort, mais après, quand on a su qu'il était mort, un pauvre gars, mais voilà quoi. Et il ne fréquentait personne, il n'avait aucune relation. Il a pété un câble, il a mis le feu partout, quoi. Voilà. Sinon, cet homme-là faisait du kitesurf dans la baie, et avec un temps comme aujourd'hui, souvent bien plus mauvais que ça, et il était vraiment très fort. Là, en dehors du personnage, ce qu'il faisait au niveau du sport, donc du kite, là, il était vraiment balèze. Hein. Ah ouais, je le regardais faire, j'étais admiratif. Je le suivais à la jumelle, j'ai même pris des photos de lui, je pense. Ouais, il était très doué pour ça, ouais, franchement. D'où il vient, où il va, je savais pas.
Que tu vois là, c'est une ruine, une maison qui a pris feu il y a 2 ans maintenant. Voilà, il ne reste plus que les murs. Et en fait, je pense que ce sont des cocktails Molotov qui ont été utilisés. beaucoup d'incendies en même temps, ça faisait quand même bizarre.
Et toi, tu connais la personne qui a fait ça ?
Oui. C'était un ami à moi. Effectivement, je connais et j'ai connu. Et c'est... Voilà, toutes les maisons qui ont été incendiées, il y en a quatre. Ouais, quatre, plus le standard téléphonique. Donc, ces maisons n'avaient pas d'habitants. Partout, ce sont des dégâts matériels, mais bon, et ça s'est terminé par une mort d'homme, la sienne. C'était un 12 juillet. Je crois me souvenir qu'il faisait beau, oui.
Yolande Botkelen, habitante d'Ouessant, travaille au musée incendié.
Alors Pascal, c'était donc un grand garçon, grand parce qu'il devait bien faire 1m90, 95. Grand par la taille et grand par le cœur, qui est arrivé à Ouessant, je dirais en même temps que moi, dans les années 2000, je pense. Et donc, nous avons fait connaissance puisqu'il habitait tout près de chez moi, ici. Il louait une maison et il est venu ici, je pense, attiré par l'insularité, la solitude qu'il avait l'air d'apprécier par-dessus tout. Et le vent, puisqu'il a essayé de dompter ce vent de diverses façons, soit en faisant de la planche à voile, après du kite, il faisait aussi beaucoup de parachutisme. Donc ensuite, il faisait des petits films, voilà, grâce à ses jouets, en fait. C'était des grands jouets. Enfin, quand on le regardait vivre hein, avec ses animaux, il était d'une grande douceur. Dans ses propos, il était enfin, jamais méchant envers qui que ce soit, quoi. Puis pas violent.
Il habitait à l'écart du village. Sur Ouessant, il y a un gros village. Il faut monter un peu et ça doit être sur la côte nord, un peu dans un petit hameau. C'est une maison qui est adossée à un garage. Moi, quand j'y suis allé, il n'en restait absolument rien. Enfin, il restait les murs, quoi. Il doit y avoir une autre habitation à côté, il y a des habitations en face, et puis c'est des petits chemins, et puis tout autour, c'est la nature.
Il avait un mental qui était différent du nôtre, quoi. Il voulait faire un peu à sa guise, faire tout à sa guise, et puis voilà. Il n'aimait pas être commandé déjà pour commencer, je pense. Hein. Et puis c'est là qu'il a réglé ses comptes. Mais au matériel, pas aux gens.
Jean-Charles Lamour, le voisin.
On est dans le nord de l'île. On est entre le village de Kéranchas et le village de Kagadou. certains disent que c'est... qui était bien, d'autres qui disent que c'était un sauvage. Il parlait pas beaucoup, mais bon, il a agi, moi. Parce que pour déjà détruire la centrale téléphonique, il fallait déjà avoir une connaissance. Et apparemment, c'était pas un imbécile. Parce qu'il savait, jouer. La preuve, déjà, vous, pour allumer votre barbecue, il me faut une demi-heure. Lui, il a mis du feu à une maison en vite fait, hein, sans... Enfin, c'est une facilité, quoi. Incroyable. Mais bon, moi, il me disait bonjour, mais bon, c'était pas plus, quoi. On parlait d'un puits dégoûtant. Mais on n'a jamais parlé de sujets qui fâchaient. Ces chiens, moi, j'avais eu un petit problème avec lui. Bon, on s'est réglé, parce que j'ai dit, il n'y a pas de raison, quoi. Mais j'avais des moutons. Donc j'ai dit, des chiens, je sais qu'ils ne font pas de mal aux moutons, mais les moutons, ils auront peur. Donc ces chiens, ils étaient inoffensifs, hein. Mais ça fait peur, quoi.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la maison qui est juste en face, là ?
Ben, la maison, rien, elle a pris feu. C'est un incendie volontaire, quoi. Et voilà. Pourquoi il en avait marre ? C'est pas mon problème, je sais pas. Il était en colère après son propriétaire. Et il me disait, mon propriétaire, il veut me virer au mois d'avril, parce que c'est à partir du mois d'avril, mais lui, il n'a pas l'intention d'aller. Et ça s'est passé à 4h du matin. On a entendu un grand boom. Et je pense que c'est le réservoir de la voiture qui a explosé. Et 30 secondes après, j'ai les voisins, le grand-père, la grand-mère avec les petits-enfants qui sont venus à la porte. Et comme j'étais à la fenêtre en haut, j'ai dit oui, ici, c'est pas bon. J'ai regardé, j'ai vu les flammes partout. Et là, ça a commencé la sérénade, quoi. Déjà le bruit des flammes. Le bruit des ardoises qui éclatent. Le goudron en fumée qui va dans la prairie. C'était une ambiance d'enfer. Et on a eu de la chance, toute la fumée et tout le papier goudronné, les ardoises qui craquaient, le papier goudronné, allaient dans la prairie. Et comme il y avait la boucaille tout l'après-midi, le vent nous a sauvés.
Ah, quand il souffle très fort, c'est le vent, ça peut être angoissant, hein, ça... Surtout quand il souffle fort. Hein. Y a pas un vent, y a plein de vents. Y a sans doute le vent vivifiant, y a le vent qui fait peur, y a le vent qui fait mal. C'est une plainte. Hein. Le vent qui hurle. Les éléments qui sont déchaînés, la mousse qui vole, c'est dantesque, hein, c'est quelque chose qui peut rendre fou, oui.
Et les gendarmes, ils étaient de bonheur, hein, je pense qu'on entendait les coups qui venaient vers les 8-9 heures, déjà, donc ils étaient déjà là. Hein. Et peut-être bien avant, même, parce qu'ils sont discrets, hein, quand ils viennent attaquer, ils disent pas j'arrive, hein, non.
Combien de vous, un garçon, dois-tu faire avant qu'un homme ce soit Écoute, mon ami, écoute dans le vent, écoute la réponse est dans le vent.
C'était petit Louis.
Qu'est-ce qu'il me raconte ?
Je suis pas personne.
Bar de la Duchesse Anne.
Il avait pas réellement une vie sociale telle qu'on l'entend. Il n'allait pas, il n'allait jamais dans les bars, il n'allait pas aux soirées. Je crois qu'il a souffert de tout ce qu'on a pu dire sur lui, alors que lui ne parlait de personne. C'est quelque chose de difficile à supporter, je suppose.
Ce monsieur, je crois qu'il avait oublié de payer le loyer. Et puis, il y avait quelques difficultés avec les propriétaires. Alors, une chose extraordinaire, c'est que la dame propriétaire et sa fille ont été retrouvées mortes dans une grève du côté nord à 1h du matin en robe de chambre. C'est ce que je sais, hein, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Hein. Alors c'est quand même étonnant de trouver deux personnes mortes en robe de chambre à 1h du matin. Quoi.
Je ne sais pas exactement quelle a été la nature des rumeurs, mais il y en a eu, semble-t-il, oui. Et puis le fait qu'il ait été catalogué, il n'est pas fréquentable, il est dangereux, forcément, ça. Déjà pour quelqu'un qui n'a pas de rapport. Alors il était solitaire, mais il vivait aussi dans une. Quelle était la part de solitude voulue, et. Mais ça, j'ai pas de réponse non plus. Les premiers gendarmes arrivent avant 7h du matin, je crois. Et la découverte du corps, ça doit être vers 15h. Non, je crois que c'est ça. Donc ça a duré quelques heures. Et là, il y a une voisine qui me raconte qu'elle a ouvert ses volets au petit matin. Il y avait un hélicoptère qui se posait une dizaine de mètres. Et ça résumait un peu le côté spectaculaire pour les gens. Voir cet hélico, ces dizaines de gendarmes qui était lancé à la poursuite de Pascal Gosselin, ça a marqué les esprits, les gens ont eu peur.
Quand j'ai levé le nez, j'ai vu qu'il y avait de la fumée un peu partout sur l'île. Et ensuite, on voyait partout, dans tous les sens, courir des policiers en voiture, en vélo électrique. Et donc, ils recherchaient Pascal. Comment dire, quand le gendarme m'a dit qu'on avait retrouvé ses chiens, enfin au moins un chien, le cadavre d'un chien dans sa maison, je lui ai dit qu'il ne le retrouverait pas, probablement pas vivant.
Ben, d'une part, moi, je dormais. Ah, j'ai été réveillé par les gendarmes qui pensaient que M. Gosselin se trouvait chez nous. Mais non, d'abord, on était surpris que les gendarmes soient là, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à un événement comme celui-là. Néanmoins, Dès l'instant qu'on a frappé à notre porte et que j'ai entendu les gendarmes venir à son sujet, j'aurais demandé de se dépêcher de le trouver.
Oui, mais c'est moi qui me suis levée. Le matin, quand ils sont venus, c'était 6 heures, enfin, je n'ai plus l'heure exacte, mais on entend sonner. On se demande quand même qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, j'ouvre le portail et je vois les gendarmes, la garde champêtre. Ils étaient plusieurs, ils étaient très nombreux pour me demander si nous avions vu Monsieur Gosselin.
Mais il y avait GIGN qui était là.
Sans doute.
Oui, ah ben si, avec les fusils. Ah ouais, ils étaient armés. Hein.
Oui, mais après, une fois qu'ils ont quitté chez nous, parce que je leur ai même pas demandé qu'est-ce qui se passait.
Ah mais moi, je l'ai vu avec.
Daniel et Annick, Montbailly, habitants d'Ouessant.
Ah ben, ils payaient pas son loyer. Parce qu'évidemment, il n'avait plus d'argent.
Il y a eu une enquête, certes, qui a été faite. Il a été disculpé. Oui. Mais néanmoins, pour la population, il reste celui qui, certainement, a poussé ces personnes. Enfin, on ne sait pas.
Vous pensez qu'il a pu tuer ses propriétaires ou pas?
Moi, je n'y crois pas. Mais je sais que dans la population, c'est très ancré. Mais moi, je n'y crois pas.
Et puis, bon, voilà. Et après, il y a eu un tournant. Quand il travaillait pour pouvoir faire nos murs, j'estimais qu'à 50 ans, faire le travail qu'il effectuait ne répondait pas au travail d'un être humain normal. Parce que le corps humain n'est pas fait pour soulever des pierres comme il le faisait. Et puis est arrivé ce qui devait se passer, c'est que il a eu des problèmes à la colonne vertébrale qui ne lui permettaient plus de pouvoir faire ce qu'il faisait auparavant. Et il surmontait tout cela, il voulait ne rien montrer à l'extérieur, il continuait comme il faisait avant. Il y avait une espèce de, je vais dire, déification de sa personne. La souffrance, ça se domine, il est au-dessus de tout ça, et il continue. Il continue.
Oh ben là, vous reprenez la route de Lampol.
Mais vous aviez quand même une idée de l'endroit où on a retrouvé son corps, vous
savez, non, pas du tout.
Pas du tout.
Ah ben, je sais que c'est sur la côte sud. C'est tout ce que je sais.
Et sur lequel tasse?
Et du côté du fort.
Enfin, je pense qu'il était aux abois et qu'il n'avait plus d'argent, puisqu'il n'avait plus de travail. Et il a voulu récupérer de l'argent. Bon, il c'était pas sous l'emprise de l'alcool, parce que je pense qu'il ne buvait pas d'alcool, ce monsieur. Et quelle drôle d'idée d'ailleurs de venir braquer une banque à Ouessant, sachant très bien qu'il peut aller nulle part.
Et si bien qu'un jour, eh bien, la banque lui ayant fermé son compte. Donc sans l'avertir en fait. Et donc quand il est allé à la banque pour dire que ben voilà, il se retrouvait dans une situation qui n'appréciait pas du tout. Donc il est bon, la personne qui se trouvait là, l'employé, lui a dit qu'elle ne pouvait rien faire. Donc il a exigé de récupérer le reste, le solde de son compte. Comme elle n'obtempérait pas, il l'a attrapé. Et il a récupéré donc ses 400 euros ou quelque chose comme ça, et il est parti. Donc l'employé hurlait au braquage, machin. Donc la rumeur est partie, et de là a fait un très grand tour, disons le tour de l'île, et a beaucoup miné Pascal qui s'attendait pas à ça. Et disons que c'était il était bon de nature, il n'aurait pas pu imaginer qu'on aille raconter qu'il ait braqué une banque.
Non, il n'y a pas eu de braquage du tout. Ça, c'est... On va rentrer dans la légende. Non, il n'y a pas eu de braquage. Donc, plus de travail, plus d'argent. Alors, il en avait à la banque. Et alors qu'il était client depuis des années, qu'il était connu comme on peut dire le loup blanc, eh bien, on lui demande qui il est, en lui demandant de présenter une carte d'identité. Et il refuse. Il a son chéquier, il présente son chéquier pour pouvoir avoir de l'argent et on lui refuse. Alors, il est retourné évidemment en bredouille. Manque d'amour? Manque d'argent? Souffrance physique? Non-reconnaissance de sa personne au niveau de la banque, alors qu'il a de l'argent? Eh bien, là, je ne sais pas s'il a disjoncté. Je peux pas dire ça. Mais en langage ordinaire, on dirait qu'il a disjoncté. Il a pété un plomb, voilà. La personne n'a pas voulu, il est passé derrière le comptoir, il s'est saisi de l'argent, la dame n'a pas voulu. Il l'aurait pris par les cheveux, l'aurait traîné dehors. Ah oui, ça, on ne peut pas voler. Tout de suite, on est pris. Et il le savait.
La presse s'en est mêlée, la population, les réseaux sociaux, et ça c'est important. Donc voilà, ça a été très dur. Et à partir de là, alors on ne s'est pas contenté de ça, parce que bon, du coup, c'était devenu un braqueur. Et on s'est dit, ah, il a peut-être aussi... c'est peut-être lui aussi qui a assassiné sa propriétaire et sa fille.
Après, moi, pour ce que j'ai pu... J'ai pas fait d'enquête approfondie là-dessus, mais le parquet, les gendarmes que j'ai pu consulter m'ont tous dit que c'était invraisemblable et qu'ils avaient enquêté et que pour eux c'était accidentel. La solitude, la vie sur une île, l'intégration, peut-être justement de tous ceux qui peuvent paraître étrangers, voilà, si tu es pas d'Ouessant, tu peux y venir, mais est-ce que tu peux t'y installer, c'est ça. En fait, tous les rapports humains sont un peu exacerbés, tout prend des proportions beaucoup plus importantes que la réalité, et quand quelqu'un commence à être ostracisé, il y a une espèce de force qui se met en branle et qui, même si il y a des rumeurs qui viennent se greffer, c'est un peu comme si il fallait rejeter ce corps étranger. Voilà, donc tout s'amplifie en fait. La personne Pascal Gosselin a été condamnée avec le braquage. Ce qu'on a appelé un braquage, et il avait une interdiction de séjour qui avait été prononcée de 5 ans, mais il avait fait appel. Donc en 6 mois, c'est la descente aux enfers pour cette personne, quoi.
Si ça avait été à Ouessantin, ma mère n'en aurait parlé. Jamais. C'est un appel au secours, ça c'est de toute évidence. Et cet acte va être jugé, évidemment, par la population pour l'exclure. On n'en veut plus, il faut qu'il s'en aille. Il est allé devant le juge, puis il a été condamné sévèrement. Interdiction de fréquenter le bourg. Donc il se sentait réellement exclu. Et parce que on va parler maintenant des travaux qui n'ont pas été terminés.
Ouais. La poêle, la menthe.
La sauce et puis la menthe.
C'était quelqu'un qui était pris de liberté. Alors à Ouessant, on peut se dire, ouais, sur une île, on est battu par les vents, on a un sentiment d'extrême liberté. Et à côté de ça, il y a quand même ces coutumes qui peuvent, au contraire, apparaître comme des contraintes plus ou moins fortes. Hein. Ce qu'on me disait sur ces chiens, il y avait deux chiens qu'il aimait énormément, et pour lui... Comme les hommes, les chiens devaient pouvoir se déplacer librement. Sauf qu'on est à Ouessant et sur Ouessant, il y a beaucoup de moutons. Et donc, on laisse pas les chiens. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes, semble-t-il, avec des propriétaires de moutons, entre autres. Et puis aussi, par rapport à ses travaux, alors il bossait extrêmement bien. Il était assez cher, mais bon, c'est son droit. Et puis, voilà. Mais ça a créé quand même des problèmes avec des gens qui essayaient de ne pas payer entièrement. Donc voilà, il y a tout ça, il y a tout ce puzzle là qui s'est mis en place.
Et comment vous expliquez qu'il ait pu tuer ses chiens?
Tuer? Ah, moi, j'ai pas dit ça. Moi, pour moi, je sais pas. Je suis surpris que les chiens, que sont-ils devenus? Je ne sais pas. A priori, ils sont morts, puisqu'on n'en entend plus parler.
Pour moi, je pense que les chiens sont morts aussi. Et je ne comprends pas, effectivement. Moi, j'ai pensé qu'il les avait empoisonnés, qu'il avait fait quelque chose, mais qu'il n'allait pas laisser son chien brûler vif. C'était pas possible. Pas possible.
Ouais, mais les poissons, c'est pareil. Ouais. Mais c'était pour lui sa vie. Puis les chats.
Il a tout détruit, de toute façon.
Les chats.
En partant.
Mais tout a été détruit. Donc on peut que penser que tous ces animaux, tout ce qui pouvait vivre autour de lui... Il a éteint toute vie. Il a éteint toute vie.
Tout ce qu'il aimait.
Tout ce qu'il aimait. Voilà. Il ne pouvait pas laisser quelque chose à qui que ce soit de vivant.
La veille des incendies multiples, il m'a appelé pour me dire qu'il avait quelque chose pour moi. Et donc, il est venu m'apporter une caisse. Et dans cette caisse, il y avait une centaine de DVD et lecteurs DVD. Donc, et je lui dis, mais pourquoi tu m'apportes ça? Il me dit, parce que je ne vais pas en avoir l'utilité. De toute façon, il faudra que je libère mon logement puisque la gendarmerie vient demain pour m'expulser, puisque ça fait 2 ans que je n'ai pas payé mon loyer, donc c'est normal que je m'en aille.
Il nous avait dit qu'il ne voulait pas quitter Ouessant. Pour lui, c'était sa terre de liberté. Quelle issue avait-il ?
Un an avant que le drame ne se passe, il était à la maison et il n'était pas bien, on discutait. Et il a dit qu'il n'avait plus rien à faire sur cette terre, que de toute façon, pour lui, on pouvait se raccrocher à rien. Et tous les deux, on lui a dit, mais Pascal, vous avez quand même votre maman, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et il s'est mis à pleurer. Et c'est vrai que lorsque... On l'avait vu le 4 juillet à la maison, et d'habitude, quand il vient, il me fait toujours la bise, il m'embrassait. Et puis quand il repartait, j'allais le revoir, donc par conséquent, il n'y avait pas de bisous. Et le 4 juillet, il m'a embrassée en partant. Moi, ça m'a inquiétée.
Il n'avait pas d'issue. Il n'avait pas d'issue.
Ces deux rocs qui se sont percutés en fait. Hein. Lui avait son caractère entier, il y a le reste de la population. Que peut une personne qui veut pas s'intégrer face à des personnes qui ont leur, c'est normal, leur propre code, leur propre mode de vie. On peut vivre à côté. Il faut faire avec les Ouessantins.
Vous saviez qu'il faisait des vidéos depuis ses avions en Modélis ou...
Alors oui, il devait en faire, mais alors là, je me rappelle plus si j'ai vu ça. Parce qu'il aimait bien montrer.
J'ai retrouvé une vidéo sur internet justement qu'il a réalisée.
Ah bon ?
Et que voilà, que je voulais vous montrer du coup.
Ah bah oui. Ça plane pour moi. C'est son titre.
Avec sa voiture rouge Maynec. Il se met bien en hauteur sur les rochers, il veut dominer.
Ah bah oui, c'est du vent. Oui, mais là, tu vois...
C'est en face de quel air?
Il le contrôle. Hein. Il est téléguidé, son avion. Allez hop, un matin, une nounoune est venue chez moi, bouffée de cellophane, cheveux chinois. Astara dans une gueule de bois. A vu bannir dans un grand air en caillou. Comme un indien dans son hibou. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. C'est fantastique. C'est beau. Quelle science il avait. Hein. Un homme remarquable. On voit ces animaux en liberté. Moi, je vais vous dire, pour moi, c'était un enfant. C'était pour moi un enfant.
Oh, avec un coucher de soleil. Mmh. Superbe, c'est beau. Ça doit être ça, c'est du côté où il a dû finir sa vie.
Tu vois.
Ses buts.
Oui.
Allez hop, madame, c'est viré, c'est barré, on passe les barres à tout casser, les barres de l'essentiel.
On l'a retrouvé adossé à une pierre, en regardant face à la mer. Enfin, je veux dire, c'est sidérant. Enfin, c'est le degré de violence aussi avec lequel, parce que ça ressemble quand même à une furieuse vengeance, à une tempête. La tempête Gosselin, c'était extrêmement préparé, planifié, orchestré, délibéré. Voilà.
Eh bien, ça s'est terminé face à la mer. Voilà, il s'est donné la mort. Donc, il est allé là où il aimait regarder la mer, c'est-à-dire à la pointe de Perne, là où il faisait beaucoup de modélisme ou de photos avec ses planeurs. Il s'est installé donc face à la mer. Il s'est ouvert les veines et il s'est poignardé. Tout en écoutant la musique, avec un casque sur les oreilles, le dos contre un rocher.
tout le monde pense la même chose, mais personne ne dit, quoi. Mais quoi, je sais pas.
Il avait un blog, mais il a tout supprimé. Le blog s'appelait Grand Pasque et il n'y a plus rien. Parce que Grand Pascal.
Mais est-ce que vous savez pourquoi il était aussi solitaire ?
La peur. La peur. La peur de l'autre. Il avait peut-être peur de lui-même. Peur de lui-même, peur de sa force, peur... Peur d'être rejeté. Et il l'était.
Il faut les faire venir, les biscottes, du pain. En principe, elles devraient venir, mais bon. Et la petite Pépita, qui est devant. Donc, c'est mes filles. Elles sont... On dirait qu'elles surveillent. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Ça regarde. Il y a quelque chose qui veut les intriguer.
Alain, le gardien de chef.
La première fois qu'on l'avait vu, c'était là-haut. Et il était sur ce rocher, là. Il était bien couché, il était là. Il y a déjà 2 ans.
Toi, tu n'avais jamais eu de problème avec lui ?
Avec lui, aucun problème. Aucun problème. Il me parlait assez souvent, puisque bon, avec les biquettes et tout, il aimait bien les biquettes. Et puis là, c'était son coin, là, faire son kitesurf, là. C'était là qu'il venait dans ce secteur. Et ce chemin, il aimait ce chemin. Mais bon, la vie en a décidé autrement. J'ai cherché une biquette qui était morte. Elles se cachent, elles font un petit peu comme les oiseaux. Elles se cachent, déjà elles quittent le troupeau. Ça c'est jamais bon signe. On sent déjà que la bête est affaiblie. Et puis là, elle a été mourir là dans ce secteur. Alors je vais la chercher. Hein. Et il y avait 3 personnes là qui étaient en train de pique-niquer. Je leur demande de l'aide, je dis, si vous vouliez me donner un petit coup de main, on va débarrasser la biquette et la mettre derrière un rocher. Ils me disent, il n'y a pas de problème. Et puis ils me disent, mais on est intrigués, on dirait qu'il y a quelque chose qui est couché et qui ne bouge pas, en face. Donc on descend par là, et on descend. Et qu'est-ce qu'on voit? Mais c'était mon Pascal qui s'était suicidé. Tu veux qu'on y aille? attention de ne pas glisser parce que là c'est pas le moment de se casser la, la marboulette. Voilà, c'était là. Et il était allongé, le dos appuyé, la tête appuyée sur le...
Ici, là.
Voilà. Voilà l'histoire de Pascal qui s'est malheureusement terminée ici. Il s'est enfoncé ça, ce genre de sabot japonais. Qui s'est enfoncé dans le cœur. Il faut quand même se... un sacré courage, comme on dit, pour en finir comme ça. Hein. Je pense qu'il était apaisé. Hein. Il était les jambes allongées, son sabre sur le côté. Il avait des écouteurs dans les oreilles et il saignait au niveau des oreilles. On voyait s'écouler là, on voyait encore des traces de sang, des traces de sang. C'est resté un moment et le sang était resté un moment. Après, ça a été fini. Et son visage, ben, comme on dit, le visage de la mort. Hein. Il était tout blanc, 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 cireux. La mort. Quoi. Il en avait fini. Mais pour Pascal,
où est sang, le vent et son sang. Avec Hervé Chambonnière, Paul Jézéquiel, Yolande Botkelen, Daniel Montbailly, Annick Montbailly, Alain Maffran, dit Alain le gardien de chèvre, et Louis Le Gall, dit Petit Louis. Coordination Aurélie Charon. Attaché de production Inès Duperron. Prise de son, Thomas Robin. Mixage, Alain Joubert. Une création sonore de Octave Broutard, réalisée par Céline Terce.
Dimanche prochain, dans l'expérience, l'auteur Sigrid Carré-Lecointre reconstitue celle d'un carambolage vécu quelques années plus tôt à travers la mémoire et à travers les sons. Il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture, l'expérience et la création, ça continue.